Bon, alors on va commencer. Donc on est à Saint-Benoît. Alors je vous avais parlé de la règle. Donc c'est une règle, comme je vous avais dit, on a fini par découvrir que c'était une règle qui était une compilation. Enfin, Benoît était pas Saint-Benoît, hein, donc quand il était Benoît. Donc il n'avait pas l'impression de faire une règle pour des millénaires, mais il a compilé des maximes de la vie religieuse, déjà monastique, qui existait en Occident, notamment une règle, ce qu'on appelait la règle du maître, qui est une règle anonyme, et d'autres éléments. Donc vous savez qu'il y avait déjà la tradition de Ligugé, donc la tradition de Saint-Martin, il y avait la tradition de Saint-Colomban, il y avait la tradition de la Provence, là, de Saint-Cassien et tous ces gens-là. Et donc voilà, il va compiler un certain nombre d'éléments et ça va donner cette fameuse règle qui est marquée par l'idée de, comme je disais l'autre fois, discretio, c'est-à-dire de mesure. Voilà, dans le prologue, il dit « Dans cette institution, nous ne voulons rien établir de rude ni de pesant. » Alors le texte de la règle compte 73 chapitres. Alors encore une fois, les chapitres dans la littérature antique, c'est souvent des paragraphes. Hein. C'est capitulus, hein, ou capitulum. Donc c'est vraiment avec un diminutif. Hein. Donc c'est des petites choses. Alors je vous avais parlé des quatre formes de moines. Les deux qui sont acceptables, les cénobétiques. Puis une fois qu'on s'est suffisamment entraîné dans la vie de communauté, on peut partir dans la vie hérémitique. Le dernier chapitre de la règle, c'est de dire, bon, voilà, tout ça, c'est juste une propédeutique. Et une fois qu'on s'est exercé dans cette propédeutique, ben on est mûr pour devenir un vrai moine, autrement dit, un anachorète, hein, un ermite. Et puis... les mauvais moines, hein, les sarabaïdes, ceux qui n'ont pas de règles. Et puis, mais regardez des sarabaïdes qui n'ont pas de règles. Hein, on parlait de ce brave marchand russe là qui est devenu le pèlerin russe. Hein. Bon, il y en a parfois quand même qui ne sont pas que des profiteurs. Et puis les girovagues, hein, ceux qui n'ont pas de stabilité. Mais bon, encore une fois, notre pèlerin, vous avez vu, l'épître de la messe d'aujourd'hui, elle nous parle dans la lettre aux Hébreux, elle dit que nous sommes des étrangers, des voyageurs sans patrie fixe. Hein, donc la vraie patrie, elle est ailleurs. Et puis alors après, donc, il nous parle de l'abbé, du conseil des moines. L'abbé qui représente le Christ, et en même temps le conseil qui est un peu comme le conseil des apôtres. Donc, vous voyez, c'est cette espèce d'équilibre entre la monarchie et la démocratie en quelque sorte, ou l'oligarchie dans la mesure où dans le conseil des moines, ce sont notamment les doyens, donc ceux qui sont un tous les 10 moines, qui la seigneur sparse, comme on dit aussi, la partie la plus saine en quelque sorte, de la communauté qui peut siéger. Puis alors après, il parle des vertus des moines. Multiples choses. Une très très longue section sur la distribution des psaumes dans la prière chorale. Et puis la discipline du monastère, le sommeil... les fêtes, la santé, enfin, etc. Les fonctions dans le monastère, le célérier, celui qui s'occupe de la cella, c'est-à-dire de la cave, en somme, autrement dit des biens, les cuisiniers, les infirmiers, les lecteurs, les lectures aussi, la nourriture, la boisson, c'est là où il dit, de nos jours, les temps sont tels que les gens, on est bien obligé de leur accorder un quart de litre de vin par jour, mais dans les temps anciens, on buvait que de l'eau.
Donc, enfin, faut dire aussi que les braves gars, les braves moines d'Occident, enfin, je veux dire, ils étaient pas, ils travaillaient pas par 30 ou 40 degrés, hein, ils travaillaient souvent par moins 10 ou. Donc, ils avaient peut-être besoin d'un petit robot actif dans les travaux. Donc, le travail, les repas, etc. Et puis, il y a aussi une section sur les relations avec l'extérieur. Comment accueillir les voyageurs, les hôtes, la manière de recevoir les candidats. En général, c'est de leur donner un coup de pied au derrière. Et attendre qu'ils reviennent, et puis les renvoyer, et puis attendre. Si vraiment ils persévèrent, ben. C'est la même discipline que pour le coup, que dans les monastères d'Égypte. Hein. Quand quelqu'un vient au monastère, on le décourage. Et puis, s'il persévère, bah, on le prend. Donc, maintenant, c'est un peu le contraire. Ne serait-ce que l'archevêque, là, qui vient de dire qu'il organise une soirée où il veut accueillir tous les garçons qui se posent des questions sur le sacerdoce, vous voyez. On va plutôt les chercher qu'aller les renvoyer
Ah,
promener.
mais ça, c'est pour les prêtres
Oui,
séculiers.
séculier, oui.
Et c'était la règle aussi avant pour les prêtres
Oui,
séculiers,
je
de les
pense qu'on.
renvoyer, enfin de les décourager.
On décourageait un peu les gens, oui. Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était quand même une sorte d'ascension sociale, hein, parce que même si la vie du moine nous paraissait, la vie des moines, hein, telle qu'elle est décrite dans la règle, nous paraissait austère, la vie du paysan était encore pire, hein, donc. Le petit paysan qui était un peu délié, un peu intelligent et qui avait un peu de piété, en fait, en devenant moine, finalement, il n'avait pas une vie pire que ses parents ou ses frères et sœurs. Hein. Bon, regardez, quand on regarde aujourd'hui, enfin, dans certains monastères ou dans certaines communautés, globalement, on ne se pose pas trop de questions sur le lendemain. On a à peu près tout ce qu'il nous faut. Et puis, les frères et sœurs qui sont confrontés au chômage, à rédiger 150 demandes d'emploi pour espérer en avoir une qui sort, etc. Enfin, je veux dire, parfois, la vie laïque, elle n'est pas non plus rose que le. Nous, on ne paye pas d'impôts. Les autres, dès qu'ils ont leur emploi, ils en payent. Alors, revenons à notre Saint-Benoît. Alors, le prologue est quand même un très beau texte de facture sapientielle, hein, comme les livres de l'Ancien Testament. Écoute, mon fils, les préceptes de ton maître. Prête-moi l'oreille de ton cœur. Accueille les avis d'un tendre père afin de les accomplir efficacement et de revenir par le labeur de l'obéissance à ceux de lui dont t'éloignait la lâcheté de la désobéissance. Désobéissance d'Adam, obéissance du Christ. Et en fait, finalement, toute la spiritualité de Saint Benoît est fondée sur l'obéissance. Et vous voyez, Ignace de Loyola, qui avait médité, hein, l'esprit de Saint Benoît, va fonder aussi toute sa congrégation sur son ordre, sur l'obéissance du Christ, telle qu'elle est vécue. Vous savez qu'il était passé à Montserrat, hein, le grand monastère bénédictin d'Aragon. Oui, Catalogne, oui. Enfin, oui, c'est ça. Alors, cette divine exhortation, je te l'adresse maintenant, à toi qui, renonçant à tes propres volontés pour militer sous le vrai roi, le Christ notre Seigneur, prends en main les armes puissantes et glorieuses de l'obéissance. On a presque l'impression de lire les constitutions de la Compagnie de Jésus. Que la foi soit donc la ceinture de nos reins et que, sous la conduite de l'Évangile, la pratique des bonnes œuvres nous entraîne dans ces sentiers, afin que nous méritions de voir un jour celui qui nous appelle à régner avec lui. Voilà, etc. Donc, le combat spirituel, celui de l'obéissance aux divins préceptes. L'appel à la grâce. Qui est justement qui va être la particularité du monachisme occidental, alors que le monachisme oriental est quand même très axé sur ou même irlandais, très axé sur les œuvres. à réaliser, enfin les austérités, les œuvres à réaliser à la pointe de la volonté, hein, tandis que là, on parle du secours de la grâce. Alors, dans cette vue, nous allons fonder une école où l'on apprenne à servir le Seigneur. Et nous espérons l'établir sans y instituer rien de pénible, rien d'accablant. Encore peut-il s'y présenter quelques normes un tant soit peu sévères, pour la raison bien justifiée de l'amendement de nos vices et du maintien de la charité. Alors, vous voyez, à la fois la dimension de pénitence, mais pas d'une pénitence, mais d'une pénitence thérapeutique, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire pour changer de vie, une conversion, et en même temps la pratique de la charité. Garde-toi bien, alors, saisi d'une belle peur, d'abandonner soudain la voie du salut. Sache qu'on ne peut s'y engager que par la porte étroite. Mais à mesure que l'on progresse dans l'observance régulière et dans la foi, le cœur se dilate et avec une inexprimable douceur d'amour, on marche à grands pas dans la voie des préceptes de Dieu. Et c'est ainsi que, sans nous écarter jamais de l'enseignement du Maître, persévérant jusqu'à la mort à pratiquer dans le monastère la doctrine qu'il nous a laissée, nous prenons dans la patience notre souffrance, notre part des souffrances du Christ et méritons d'avoir part également à la gloire de son royaume. Ça, c'est toute la doctrine aristotélicienne des vertus aussi. Parce que dans la vertu, c'est dur au début, quand il faut s'amender, etc., etc. Et plus on s'exerce dans la vertu, plus on l'accomplit avec aisance. Et c'est là qu'on dit que ça devient une seconde nature. Donc, il y a une fausse idée qui dit plus on progresse, plus c'est dur. C'est plutôt le contraire. Plus on progresse, plus c'est facile. C'est un peu comme quand vous jouez de la musique, hein, où au départ c'est casse-pied de faire les gammes, et puis au bout d'un certain temps, on a la joie de faire de jouer des pièces. Bon, évidemment, peut-être pas les études de transcendantal, là, l'exercice transcendantal de Liszt, mais bon, on arrive quand même à jouer des trucs, et là on a une certaine joie, on progresse. Mais donc voilà, c'est une idée, c'est donc fondé sur la sagesse philosophique, la sagesse humaine, et en même temps, c'est une doctrine qui est vraiment chrétienne. Alors après, il y a différentes choses. Alors par exemple, le chapitre 4, quels sont les instruments à pratiquer les bonnes œuvres ? Avant tout, aimer le Seigneur Dieu de tout cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Ensuite, le prochain comme soi-même. Ça. Ensuite, ne point tuer. Enfin, quand même pas mal de dire ça à des moines.
Et il a failli se faire empoisonner.
Oui, exactement. Oui, deux fois. Hein. Ne point commettre d'adultère, ne point dérober, ne point convoiter, ne point porter de faux témoignages, honorer toute personne humaine et ne pas infliger à autrui ce qu'on ne voudrait pas subir soi-même. Faire abnégation de soi pour suivre le Christ, châtier son corps, ne point s'attacher aux jouissances, aimer le jeûne, assister les pauvres, vêtir celui qui est nu, visiter les malades, ensevelir les morts, soulager ceux qui sont dans la tribulation. Vous voyez, à la fois, ce sont les commandements et puis les œuvres de miséricorde. Hein. Consoler les affligés, rompre avec les manières du siècle, ne rien préférer à l'amour du Christ, une des grandes maximes de saint Benoît, ne pas se livrer à la colère, ne point s'attarder dans la rancune, ne pas entretenir de fausseté dans son cœur, ne pas donner le baiser de paix avec simulation, ne pas se départir de la charité. Ça continue, hein, il y en a. Ne pas jurer, etc. Il y a 73 trucs comme ça. Bon, alors, je ne vais pas les dire tous, hein, mais. Par exemple, ne pas se laisser entraîner au rire fréquent et débridé. Vous savez qu'il y a eu un roman il y a une trentaine d'années sur cette question. S'adonner souvent à l'oraison. Accomplir chaque jour d'une manière effective les préceptes de Dieu, etc., etc. Vénérer les anciens, aimer les plus jeunes. Prier pour ses ennemis dans l'amour du Christ. Se remettre en paix avant le coucher du soleil avec celui dont nous éloigne la discorde. Et dernier précepte, ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. une fois qu'on n'a pas réussi à, comment dire, à réaliser les 72 préceptes précédents, 73e, qui vient vous consoler, et ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Alors il dit, voilà quels sont les instruments de l'art spirituel, en les employant jour et nuit, en accomplissant sans relâche le programme des œuvres divines, de manière à les remettre au jour du jugement entre les mains de Dieu, et recevront de lui la récompense que lui-même a promise, etc. etc. Alors, par exemple, différents chapitres. Le premier pas dans la carrière de l'humilité est une obéissance pratiquée sans délai. Telle est la marque distinctive de ceux qui estiment ne rien posséder de plus cher que le Christ. Donc, vous voyez, dans l'échelle des vertus, Benoît met à la base l'humilité et la pauvreté, et pour exercer l'obéissance. Donc il y a 12 degrés de l'humilité. Donc le premier, vous voyez, c'est l'obéissance pratiquée sans délai. Après, il y a des chapitres très complexes, enfin très, très détaillés, sur les psaumes, sur la répartition des psaumes dans l'office. Alors sur l'office divin, puisque aujourd'hui on sait que dans le monde bénédictin c'est le chant grégorien, etc. Alors il dit de l'attitude à garder durant la psalmodie. Nous savons par la foi que Dieu est partout présent et qu'en tout lieu les yeux du Seigneur observent bons et méchants. Mais il n'est pas de moment où nous devions en avoir une plus ferme assurance que lorsque nous assistons à l'office divin. Aussi aurons-nous toujours en la mémoire la parole du prophète, servez le Seigneur dans la crainte et chantez les psaumes avec une fervente attention. Je vous louerai, dit-il encore, en présence des anges. Hartzinger a fait un gros article là-dessus sur la liturgie à partir de ce psaume, de ce verset. Ne perdons jamais de vue avec quelle dignité il nous faut nous comporter en présence de Dieu et des anges. Et quand nous nous tenons debout à la psalmodie, sachons mettre notre âme d'accord avec notre voix. Ça, c'est une chose qui est intéressante. Vous voyez, dans le christianisme, parfois, c'est frère Anne qui nous sanctifie. C'est le corps qui nous sanctifie. Mais ce n'est pas mettre notre voix en accord avec notre esprit, comme si notre esprit était toujours pieux, etc., etc., et puis que le corps avait du mal à suivre. Là, c'est le contraire. C'est à la psalmodie, on est dans une situation, on est debout, on chante, etc. Et il faut que l'esprit corresponde à ce que la communauté a réussi à créer matériellement. Vous voyez, l'attitude corporelle, c'est ce qui va convertir notre esprit. Alors que nous, avec nos têtes de cartésiens, etc., on aurait plutôt tendance à dire que c'est l'esprit qui va pousser le corps. Oui, c'est bien, c'est sûr, hein, vous entrez, c'est votre volonté qui vous dit « je me mets à genoux ». Mais après, c'est le fait de persévérer à genoux qui va vous permettre de garder l'esprit attentif à ce que vous faites, pour que votre esprit corresponde à ce que fait votre corps, que votre esprit corresponde aux paroles que vous chantez, à l'office, voyez. Et ça, c'est très sage comme attitude. Ça montre comment notre corps et notre aide aussi dans la vie spirituelle, c'est pas simplement un adversaire, etc. Donc là, pour le coup, comme dirait Saint François, c'est bien frère Anne qui nous aide à être fidèle dans notre propos d'être à Dieu.